notre émission. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans Rémission, le magazine. Aujourd'hui un Sans Rémission, le magazine consacré à l'offre de santé en milieu rural. Alors plus spécifiquement on va prendre l'exemple du village de La Salle, puisqu'il y a différents projets qui sont en cours ou en train de voir le jour, ou même qui ont vu le jour sur ce village, et donc qui sont des projets collectifs autour de la santé. Et pour commencer on va tout d'abord écouter un extrait d'une conférence qui s'est tenue à La Salle, justement, c'était le 28 octobre dernier. Extrait d'une conférence du docteur Sicard, où étaient présents aussi le docteur Irène Lafont ainsi que Joël Lachaud, que vous connaissez sur les ondes de Radio Escapade, puisque c'est elle qui anime le coup de torchon. Donc on va tout d'abord écouter le professeur Sicard.
Médecine traditionnelle, j'ai eu la chance de vivre longtemps en dehors de mon pays, en Extrême-Orient, un petit peu en Chine, surtout au Laos, et d'observer des médecines qui avaient une inscription dans l'histoire depuis plus de 2000 ans, la médecine ayurvédique. Je ne suis absolument pas un expert des médecines traditionnelles, mais j'ai appris à les respecter. J'ai appris qu'elles étaient capables, peut-être, de substituer à cette médecine qui classificatoire, à cette médecine qui veut faire rentrer les symptômes d'une balle dans le dos quand on fait un métier qui est un peu difficile dans un supermarché, qu'on reste pendant 7 heures sur sa caisse, on a mal dans le dos, quand peut-être on fait les vendanges, on a mal dans le dos, bref, le mal dans le dos fait partie de l'existence humaine, mais la médecine est totalement incapable de lui apporter la moindre aide, en dehors d'éventuellement un peu d'aspirine ou de doliprane ou d'un médicament, mais sa réponse va être de faire une radio de la colonne vertébrale ou un scanner de la colonne vertébrale qui ne sert à rien quand on a un peu mal dans le dos. Je ne dis pas que quelqu'un ayant une douleur dans le dos ne pourra pas quelquefois révéler quelque chose qui sera embêtant et qui fera l'objet d'une investigation. Mais dans l'immense majorité des douleurs dans le dos, les douleurs banales, les douleurs des articulations, l'imagerie non seulement ne va rien apporter, mais va finir par créer des fantasmes de responsabilité, de causalité entre ce que l'on voit à la radio et ce qui est la cause même de l'exemple le plus banal et qui m'a toujours mis dans un état d'agacement, ce sont quand on a un petit peu mal à la tête, ou mal dans le cou, ou un petit vertige, et se dire au fond, peut-être qu'on devrait faire une radio du cou. Et on fait une radio du cou, et on trouve une arthrose cervicale qui est chez 100% des êtres humains à 50 ans. Eh bien, l'arthrose cervicale va enfermer le symptôme dans « j'ai une arthrose cervicale ». Et par conséquent, je suis malade. Et que, au lieu de dire, je suis un humain qui a 50 ans, une arthrose cervicale, et je vais prendre d'autres méthodes que la médecine pour m'en sortir, on va se laisser tétaniser par cette image qui n'a pas plus de sens que ce qu'elle voit. Elle ne dit rien, et elle n'a en particulier, il n'y a aucun rapport entre cette arthrose cervicale et le petit vertige que l'on perçoit éventuellement de temps en temps. Alors, les médecines traditionnelles, elles ont pour avantage d'être plutôt orientées vers la bienfaisance, de rarement être malfaisante, encore que, il faut être prudent, et qu'en particulier, on a démontré que des décoctions de plantes et de gens qui prenaient des thés importés justement d'Asie ou de pays qui, plus ils étaient exotiques, apportaient plus de prestige, pouvaient être très dangereux. On a vu ainsi des maladies du foie induites par des tisanes venues du Tibet, sous prétexte que c'était le Dalai Lama qui les avait que c'était pas au fond le Dalai Lama qui les avait fabriqués, mais qu'il y a eu des forbans qui ont vendu des thés qui éventuellement étaient porteurs d'ennuis pour le corps qui était comparable aux ennuis que certains médicaments peuvent fournir. Et la question centrale qui était celle de la justice, parce que c'est une question éthique majeure pour la médecine, c'est-à-dire que quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui en tout cas n'est pas riche, peut hésiter dans un pays comme la France où l'assurance maladie est à mon avis d'une extraordinaire générosité, puisque on peut faire 20 échographies dans le mois, on sera remboursé de ces 20 échographies sans qu'il y ait la moindre évaluation de la légitimité de ces examens. Eh bien, en revanche, devant les médecines traditionnelles, même si elles sont utiles pour le bien-être, même si elles empêchent de consommer des médicaments, eh bien, elles sont coûteuses pour les personnes. Et ce que j'ai perçu de ce projet, et qui m'a impressionné, je me suis dit, bon, les Cévennes ont peut-être une relation à l'argent, une relation aux citoyens qui est peut-être différente de ce que l'on peut avoir en Picardie, en Bretagne ou dans le Var. C'est-à-dire une interrogation sur comment faire partager l'intérêt des médecines traditionnelles à des personnes sans qu'il y ait le dépassement avec des fortunes, parce que effectivement, quand on est malade, quand on souffre, on est prêt à dépenser beaucoup d'argent et que cela peut quelquefois encourager des pratiques, sinon perverses, mais quelquefois un petit peu ambiguës. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais je pense que les médecines traditionnelles ont leur place parce qu'elles sont adaptées à la personne. Elles sont adaptées, au fond, presque, et c'est le paradoxe encore, plus adaptées aux personnes au XXIe siècle qui sont perdues dans leur corps, dans leur relation au monde. À partir du moment où les religions, même si dans les Cévennes, les protestants ont encore des repères, mais les repères spirituels sont en voie de déliquescence, et que quelquefois il peut y avoir une sorte de repère ou de pseudo-repère, je ne me porterai pas garant de la qualité, quelquefois toujours certaine, et que je ne comparerai pas des repères spirituels et des repères qui sont quelquefois des importations un peu sauvages du bouddhisme ou de la médecine ayurvédique, mais je pense que l'approche traditionnelle peut être non seulement très utile mais bienfaisante, et permet de restituer au corps son unité. Et peut-être que, justement, cette faille que la médecine dite conventionnelle a créée en abandonnant le corps, en abandonnant la parole, a fini par restituer aux médecines traditionnelles tout un espace abandonné.
Merci à Joël et Jean-Marie d'ailleurs pour l'enregistrement de cette conférence. Et puis on va continuer tout de suite avec un des projets en cours sur la salle, c'est la maison de santé. Et donc c'est le docteur Irène Lafont, que les Lassallois et les Lassalloises connaissent bien, qui s'occupe de développer ce projet au niveau de la commune, et donc elle va nous en parler plus en détail.
En 2006 et 2007, le docteur Flessier, qui était à ce moment-là conseiller général, dans le cadre de l'agrandissement de la maison de retraite, avait mis en place aussi la création de la maison médicale de regroupement des professionnels de santé. Et malheureusement, avec le changement de politique, etc., le projet est tombé à l'eau. Il n'a pas été donné suite ni à la création du Cantou, ni à la maison médicale. Et c'est donc en mars 2012, la municipalité a relancé le projet puisqu'elle était intéressée à pérenniser la présence des professionnels de santé. Et du coup, en réveillant l'association, donc ils m'ont demandé de prendre en charge le travail de cette association pour arriver à terme à avoir déposé ce projet. On a mené tambour battant le projet, on a créé, ça demande énormément de travail de réalisation du projet de santé, c'est-à-dire à quoi va servir cette maison. C'est pas juste un regroupement des professionnels, c'est aussi une nouvelle façon de travailler. Et du coup, on a été validé, notre dossier a été accepté l'année dernière au mois de mars, et depuis, donc, on est parti maintenant plus la réalisation dans l'architecture. On a commencé aussi les réunions de coordination, c'est-à-dire qu'avant même que les bâtiments soient sortis de terre, on commence à travailler de façon différente. On se réunit tous les mois, pour l'instant, pour travailler entre tous les professionnels qui peuvent être là, sur ce que ça va, un nouvel art d'exercer notre métier. Je pense que ça va authentifier les échanges qui se font une fois par téléphone, une fois dans la rue, une fois de par le dossier, par l'intermédiaire du dossier d'un patient, avec les autres professionnels. C'est nous donner l'occasion de partager au sujet de patients qu'on suit en même temps par différentes approches et d'avoir donc une meilleure coordination des soins, une meilleure perception de ce que vivent nos patients. Ça va identifier pour les patients un seul lieu de santé aussi. C'est-à-dire que s'ils ont un problème de pédicure, ils viennent là. S'ils ont les kinés, ils viennent là. S'ils doivent voir un médecin, ils viennent là. S'ils vont au dentiste, ils viennent là. Les prises de sang, c'est là. Et si l'infirmière qui fait une prise de sang se rend compte que le patient est trop essoufflé, elle appelle tout de suite un médecin qui est à côté. Si le médecin a un grain de beauté à faire enlever ou un patient qui s'est brûlé gravement, on demande aux infirmiers qui sont sur place de nous aider, de prendre en charge un pansement. Donc c'est une autre coordination des soins. On va demander au kiné, est-ce que tu peux nous expliquer, nous montrer comment tu fais ta rééducation d'épaule, comment je dois la prescrire, qu'est-ce que tu vas faire comme exercice, qu'est-ce qu'on va demander au patient de faire. Ah ben oui, mais il n'y a pas d'auxiliaire de vie. L'auxiliaire de vie vient tel jour, on s'en occupe, on va voir le centre. Donc tout ça, c'est de permettre de... On va se parler, on va communiquer beaucoup plus. Donc on va gagner aussi en qualité de travail et en temps de travail, parce que ça évite des coups de fil, du temps perdu, du temps pas perdu mais passé à autre chose.
Donc finalement c'est que des avantages pour les praticiens mais aussi pour les patients.
Oui,
c'est ça.
Il y aura aussi un secrétariat centralisé, c'est-à-dire que quand on téléphone, on ne tombe pas dans le vide, il y aura toujours un secrétariat de 8h du matin à 8h du soir, le samedi jusqu'à midi. Il y aura quelqu'un pour répondre à la demande, pour orienter tout de suite, pour donner une réponse de tel type de soins, telle personne à qui s'adresser. On aura une coordination d'action, un même mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on aura tous l'idée de dire, vous venez le maximum au cabinet, on fait le maximum de choses, on va en discuter. Le kiné, on fait plus de choses chez le kiné. Les infirmiers, les pansements, pourquoi c'est l'infirmier qui va les faire chez vous? Vous venez chercher votre pain, vous pouvez venir faire votre pansement au cabinet. Il y a le médecin qui peut regarder en même temps. La pédicure peut en profiter pour couper les ongles correctement s'il faut. Enfin bon. On voudrait améliorer la qualité des soins donnés et améliorer la qualité de vie des praticiens.
On parle de praticien justement sur la salle, du coup ça représente quoi comme type de pratique pour qui c'est qui ira quand on retrouvera dans cette maison?
Alors ceux qui sont déjà, c'est-à-dire les infirmiers, les kinés et les médecins, il y a des personnes qui, à partir du moment où le mot a été prononcé, où le projet a été validé, qui se sont intéressées. Le dentiste, il y a un dentiste nouveau qui se propose de venir 35 heures par semaine. Actuellement, on a 6 heures de dentiste par semaine et 4% de la population qui se fait soigner à la salle. On aura, on espère, 80% des gens qui viendront chez ce dentiste. On a des kinés nouveaux donc, qui se sont proposés de venir. Actuellement, ce sont des gens qui font le maximum qu'ils peuvent, mais ils sont simplement collaborateurs. Ils ne sont pas partie prenante de leur projet. Là, on a 3 kinés qui voudraient être en titre sur le bâtiment. On a une orthophoniste qui voudrait s'installer à 3/4 temps à la salle, ce qui est absolument magique puisque actuellement les enfants ou les patients vont partout ailleurs, Saint-Jean-du-Gard, enfin surtout Anduze, Alès, Ganges pour faire de l'orthophonie. Ça fait vraiment loin. On a donc une nutrithérapeute, une diététicienne, une ergothérapeute qui ont évoqué, j'aimerais bien venir puisqu'il y a une maison médicale qui s'ouvre. La podologue aura son cabinet là, avec sans doute 2 fois par mois plutôt qu'une seule comme maintenant avec la maison de retraite. Il y a donc la permanence des Adopsy qui aimeraient faire une permanence mensuelle à la salle. Il y a des psychologues qui ont demandé à venir faire des vacations à la maison. Il y aura une pièce qui sera dédiée aux gens qui vont tourner. Donc on aimerait aussi faire venir des spécialistes, c'est-à-dire qu'une fois par mois il y aura une consultation de cardiologie ou une fois par mois une consultation de gériatrie. Ça nous permet d'éviter de déplacer tous les résidents. C'est un médecin qui vient, qui fidélise donc les patients, puisque c'est toujours les mêmes. Comme lui viendra, ce sera lui qu'ils vont voir obligatoirement. et ça fidélise les patients, ça permet de limiter les trajets, ça fait une économie d'échelle, de temps pour les patients, et le médecin aussi, il connaît ses dossiers, quand on lui téléphone, il sait de qui on parle, et donc il y a un avantage énorme, ce qui fait que non seulement ça pérennise les praticiens qui sont déjà sur place, mais ça en fait venir, ça attire des gens. Et on avait même eu un jeune médecin qui avait proposé de venir s'installer, sachant qu'il y avait une maison médicale. Il nous a dit, ben, j'aimerais bien, est-ce qu'il y en a un que je peux, à qui je peux succéder? Bon, il s'est trouvé que des différents phénomènes ont fait qu'il n'a pas pu persister dans son projet, mais je suis sûre qu'on aura la proposition de jeunes médecins de venir travailler avec nous. La maison médicale les rassure, ils savent plus travailler comme on a fait nous, tout seuls dans leur cabinet, ils ont besoin d'en avoir d'autres à côté, ils ont besoin d'avoir des gens sur qui s'appuyer, et c'est vraiment dans une maison de santé que ça peut se passer. L'apport des seniors apporte leur expérience aux jeunes, et les jeunes apportent leur connaissance plus fraîche, c'est génial.
En termes de, enfin, je sais pas, c'est un mot qu'on utilise pas trop dans le domaine de la santé, mais de concurrence, parce que je crois qu'il y a un projet aussi sur Saint-Hippolyte-du-Fort, il y en a une au Vigan, enfin, il en existe dans
au Vigan. Oui, le Vigan, c'est peut-être pas tout à fait une maison de santé.
C'est en train d'être développé.
Le Saint-Hippolyte, c'est pas une maison de santé, c'est un pôle de santé, c'est-à-dire c'est un regroupement, mais ils ont pas de projet commun à part ce qu'on en sait. Il y a une maison médicale qui s'est montée, qui s'est ouverte à Sauve, par contre. Et il y en a une à Saint-Jean-du-Gard. Et au contraire, elles ne sont pas concurrentes, mais complémentaires. C'est-à-dire que, par exemple, à partir du moment où la salle a demandé l'autorisation d'ouvrir une maison médicale, nous sommes devenus zone fragile. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était Saint-Jean-du-Gard et la Vallée-Borne qui étaient considérées en zone fragile, ce qui permet pour les praticiens qui s'installent des économies financièrement, une certitude de gagner une certaine somme, de ne pas être en dessous d'un certain seuil s'ils n'ont pas assez de travail. De pérenniser des subventions de différents organismes. La salle n'était pas considérée dedans, puisqu'il y avait trois médecins installés dans leur coin, c'était pas un problème. Maintenant qu'il y a la maison médicale pour maintenir le tissu médical, on devient zone fragile, on va être zone favorisée. Nous sommes autant que Saint-Jean-du-Gard à 35 minutes, enfin 25 minutes d'un SAMU, d'un hôpital, on est zone fragile de la même manière. Concurrence, non, parce que aussi Saint-Jean-du-Gard s'oriente plus sur la prise en charge mère-enfant. C'est eux qui auront la PMI. On ne va pas se mettre sur ces plates-bandes-là. Tout ce qui sera PMI, on adressera à Saint-Jean-du-Gard.
PMI, vous pouvez préciser.
Protection maternelle et infantile. Donc tout ce qui va relever de la grossesse, les sages-femmes, l'accouchement et la périnatalité, les premiers mois, les consultations seront à Saint-Jean-du-Gard. On ne les prend pas à la salle. Par contre, nous, on a pris l'objectif de l'urgence. Donc on aura une chambre pour un studio pour recevoir le médecin de garde, la salle d'urgence qui est optimisée et qui sera donc utilisable tous les temps d'ouverture de la maison, plus les samedis et dimanches quand le médecin sera sur place. On aimerait que pour le SAMU on soit identifié Nord Cévennes, enfin notre secteur 11. Il y a un problème, c'est la salle. Donc on a envie que les médecins qui soient sur place soit des médecins formés à l'urgence, qu'on ait la réactivité, qu'on ait le matériel. On a envie d'avoir peut-être une voiture dédiée, un matériel dédié, un téléphone qui passe partout, des choses comme ça. On sera aussi plus centré sur diabète et maladies métaboliques, et Sauve est orienté sur problèmes cardio-respiratoires. Donc la rééducation cardio-respiratoire, les pathologies lourdes cardio-respiratoires. Donc en réalité, c'est pas de la concurrence, c'est de la complémentarité. Et on communique déjà beaucoup avec ces deux équipes-là, on s'entend bien entre médecins. On va continuer à travailler comme ça. On aimerait continuer à entretenir, par exemple, tout le nord, toute Saint-André-de-la-Borne et toute cette vallée-là, jusqu'à Florac, il n'y a pas de médecin. Arriver à tourner, à assurer la couverture médicale, à dire, ben voilà, tel jour il y a un médecin qui vient de Saint-Jean, tel jour il y a un médecin qui vient de la salle, le kiné, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, le kiné qui veut venir dit, mais moi j'aimerais bien monter un camping-car adapté. Je vais faire mes séances de kiné à l'Estrichure 3 fois par semaine, je passe une demi-journée, 3 fois par semaine à Somman, 3 fois par semaine à Saint-André-de-Valborne. Il fait ses séances de kiné dans un véhicule plus adapté que les lits trop mous des patients. C'est extraordinaire comme idée. C'est quelque chose, eh bien, on peut partager avec les kinés de Saint-Jean. Ce véhicule, ils le prennent, ils font leur demi-journée dans le véhicule, ils le montent à Saint-André, ils font leur demi-journée, puis c'est celui de la salle qui le redescend. Bon, on peut imaginer des choses qui permettent du bon travail à tout le monde. Et pas plus cher que de faire des VSL pour transporter les gens ou de faire dans des conditions trop insuffisantes au domicile des patients.
parlais de complémentarité, il y a aussi là sur la salle spécifiquement le dispensaire de soins naturels qui va ouvrir. Là aussi c'est un travail en bonne intelligence, j'ai envie de dire, de travail avec les thérapeutes qui seront là-bas.
Alors moi j'avais un pied des deux côtés, je connais bien les praticiens qui sont au dispensaire et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup du fait de ma casquette d'homéopathie, d'une approche un peu alternative de la médecine. Mon grand souhait serait qu'effectivement ce soit à terme qu'il y ait réellement une complémentarité aussi, une coordination, une convergence des soins. On soignera encore une fois les mêmes patients et on a beaucoup à apprendre, je pense, d'un nutrithérapeute, d'un ostéopathe qui écoute le corps d'un patient différemment. Les psychologues, on en a tout le temps besoin. On oublie un peu trop en médecine, on est un peu trop carré dans des cadres, on oublie que les gens, leurs pensées commandent beaucoup de choses dans leur corps. Donc j'espère beaucoup que le dispensaire va vraiment se mettre en route, va tourner, va faire ses preuves, je dirais, montrer qu'il y avait de la demande, appeler d'autres patients, d'autres praticiens aussi, comme la maison médicale appelle des praticiens. J'espère que le fait que le dispensaire fonctionne va appeler d'autres praticiens à venir proposer leurs services et du coup toucher plus de population et qu'à terme on se rende compte qu'on est aussi complémentaires vis-à-vis des gens et qu'on se fasse des réunions communes aussi, qu'il y ait une fois par mois aussi une réunion avec les gens du dispensaire. Quand on fait une réunion sur le diabète, si c'est notre vocation, c'est indispensable qu'on ait un nutrithérapeute qui vienne nous expliquer exactement ce qu'on mange, pas simplement une histoire de calories, de répartition des aliments, de qu'est-ce qui va vous faire du bien puisque vous avez aussi ça, qu'est-ce qui est meilleur pour vous. Tout ça, c'est des choses... Ça, c'est un rêve, il faut que je freine un petit peu mon enthousiasme sur ça, parce que je pense que les praticiens classiques ne sont pas tout à fait prêts. Mais dans un an et demi, ça sera bien.
Juste pour finir cette interview, de ce qu'on entend là, avec tous les projets qui sont en cours et puis peut-être même des maisons de santé dont les auditeurs n'étaient pas au courant, on entend beaucoup parler de désert médical dans les campagnes. Finalement, on a l'impression que le secteur de la santé se porte très bien dans les campagnes.
Non, justement, la maison médicale, c'est pour éviter la désertification. Parce que justement, le mode actuel d'exercice, les nouveaux qui arrivent, ils ont été formés encore plus que nous au travail avec des seniors. Donc ils ont toujours quelqu'un de plus âgé auquel ils se réfèrent. Ils ont appris à se référer à quelqu'un. L'exercice solitaire en face de son patient, ça, ils savent plus faire. Nous avons été formés comme ça. L'évolution fait que c'est autrement et c'est sans doute bien mieux. Il y aura pas de désertification s'il s'ouvre des maisons médicales. Dans les autres endroits, en Lozère par exemple, ce sont les maisons médicales qui maintiennent la vie, la présence des médecins. Sinon, ils partent en retraite, personne ne vient s'installer tout seul dans un village de 400 habitants avec personne autour dans un rayon de 20 bornes. Ils veulent plus. Ils font les pôles de santé à ce moment-là, ce qui s'appelle le pôle de santé, c'est-à-dire qu'ils sont rattachés à un groupe, ils vont communiquer avec, il y a des confrères qui vont pouvoir venir travailler pour eux, avec eux, ou les remplacer, les soutenir. Des praticiens spécialistes viennent se déplacer chez eux. Ça maintient un tissu médical. S'il n'y a pas la maison médicale, effectivement, il y a des désertifications. La maison médicale, elle permet de maintenir et de donner envie de venir dans notre qualité de vie.
Cette maison de santé qui devrait voir le jour donc courant 2015 du côté de la salle.